Passion.
Un reportage de Radio Présence.
Mais comment faire pour être heureux ?
Entre avril et juillet 1994, au Rwanda, plus d'un demi-million de Tutsis et de Hutus modérés, emportés par un tsunami de haine impliquant presque toute la population, étaient traqués, massacrés, exterminés. Un peu moins d'un quart de siècle plus tard, ce 7 avril 2017, à Toulouse, dans le jardin Raymond VI, tout près du musée des abattoirs, la diaspora rwandaise de la ville, devant la stèle érigée là en 2014, faisait mémoire de ce crime des crimes à l'encontre des Tutsis, de ce génocide commis en 4 mois, fulgurance dans l'horreur, dans la région africaine des Grands Lacs. 23 ans plus tard, à Toulouse, nous rencontrons quelques-uns des membres de cette diaspora rwandaise aux multiples visages. Comment, aujourd'hui, a-t-elle pu ouvrir des chemins, là où elle aurait pu penser qu'il n'y en aurait jamais plus ?
Observons une minute de silence pour le million de personnes mortes en l'espace de 3 mois, entre avril et juin, alors qu'avant 1994, plusieurs massacres avaient été des avertissements. Ils sont morts alors que ce génocide aurait pu être évité par la communauté internationale. En avril 1994, le plus jamais ça avait déjà été évoqué après la Shoah. Le plus jamais ça, qui était le fondement, le pacte moral de nos sociétés, a été foulé aux pieds, malgré les génocides précédents. Génocide des Arméniens, génocide des Juifs. En 1994, des hommes...
7 avril 2017, à Toulouse, qui se souvient du génocide rwandais, qui en a entendu parler. Dans le jardin Raymond VI, tout à côté de la stèle qu'ils ignorent ou ne voient pas, de nombreux Toulousains profitent d'une journée de vacances ensoleillée.
Bonjour, à 18h, il va y avoir une célébration, une commémoration là, devant la stèle qui commémore le génocide des Tutsis au Rwanda. Est-ce que vous le connaissez ? Est-ce que vous avez déjà fait attention à cette stèle ?
Non,
je ne connais pas, non.
Vous ne connaissez pas du tout ?
Pas du tout.
Vous n'avez jamais entendu parler ?
Non, non plus.
Moi non plus. Non. C'est la première fois.
On en a entendu parler comme ça, là, parce qu'on a mis la stèle, là, mais autrement, non. Après, c'est vrai, quand on n'est pas vraiment concerné, vous savez, des fois, on ne fait pas attention.
Vous venez régulièrement, là, dans le jardin ?
Ah oui, tous les jours.
Et la stèle, vous ne vous êtes jamais arrêté devant pour lire ?
Ah, si, je l'ai lu, déjà, si, aussi, on l'a lu, ça. Après, c'était pas... C'est-à-dire je n'ai pas de la famille qui habite là-bas ni rien. Alors quand on est moins concerné, on y fait moins attention, c'est tout. Voilà. C'est pas qu'on est contre tout ça, c'est loin de là. Au contraire.
Et vous, qu'est-ce qu'elle représente cette stèle pour vous ?
Ah ben c'est la fraternité. Et oui, puisque c'est déjà, bon, ils ne sont pas dans notre pays, mais qui ont souffert, bon, on en a parlé, tout ça. Mais c'est bien, je pense. Et comment on dit ? Oui, on est avec ces gens. C'est quand même un massacre.
Gatoyi, gaugu kaniniya, warapfunywe ni wapfuye, waragowe ni wagoka, gaugu gatoyi.
Une feuille et un stylo.
Bertrand Serp, je suis le maire du quartier Saint-Cyprien, représentant de Jean-Luc Moudac.
Au-delà de la communauté rwandaise qui est réunie ici ce soir devant cette stèle, quel peut être le sens et la portée de cette commémoration ici ce soir pour les Toulousains ?
La commémoration de ce génocide est primordiale. En tout cas, nous sommes convaincus qu'il ne faut pas oublier, c'est un devoir de mémoire, et comme disait un des orateurs aussi, un devoir de transmettre. De transmettre parce que aujourd'hui, il y a dans le monde des pays et où il y a encore beaucoup de trames humains qui se jouent quotidiennement. Comme je disais, nous avons la chance d'être en France en démocratie, mais il ne faut pas oublier et se remémorer constamment que parfois la limite entre l'horreur est très fine et qu'aujourd'hui, dans un monde qui est perturbé, il faut savoir dire non, il faut savoir résister. Et notre devoir à nous, à la fois les élus mais les citoyens, c'est de pouvoir dire non et se battre pour que, un, plus jamais le génocide, c'est prétentieux de le dire, mais ne puisse exister, et surtout que l'on puisse transmettre cette mémoire pour ne pas oublier, pour ne pas réitérer ces horreurs humaines.
Le 7 avril 1994, il y a 23 ans, dans un pays d'Afrique qui s'appelle le Rwanda, quelque chose de grave a eu lieu. Cette chose dont il est difficile de nommer, ce crime sans nom, qui à ce jour continue de nous interroger, nous, la communauté humaine, s'appelle le génocide. Au Rwanda,
quelle est la raison justement, vous n'êtes pas rwandais, la raison de votre présence ici ce soir? Ah ben,
je trouve que c'est un événement extrêmement important dans les dernières années qui s'est produit et qu'il est très important de le commémorer, de ne pas l'oublier. C'est l'absurdité de la haine, de la guerre, et je crois qu'il est tout à fait essentiel que tout le monde s'en souvienne. Je suis sénégalais, je suis d'origine sénégalaise, toulousain depuis très longtemps. Voilà, donc je veux dire que la tolérance n'a pas de frontières et que c'est une absurdité totale que ce genre de choses puisse se produire.
En fait, pour une amie, Jeanne, donc, qui s'appelle Jeanne, et qui a vécu du coup ces massacres, qui est une amie de notre mère, et du coup c'est pour ça qu'on est là. C'est comme ça qu'on a entendu parler en tout cas de la commémoration, et d'où notre présence ici.
Donc Jeanne est une de vos amies et...
Une de mes collègues de travail que j'adore, qui arrive là. Et puis je trouve que c'est important, surtout à l'heure actuelle, de se souvenir de tout ce qui s'est passé pour que ça ne se reproduise pas. Et moi, je suis encore plus touchée parce que j'ai mes enfants qui sont nés en 94, l'année où ça s'est passé. Et voilà, je trouve que c'est important de venir les soutenir. Je me souviens du massacre, je me souviens de tout ce qui s'est passé en 94 et je me dis qu'il ne faut pas oublier. Ça, c'est comme ce qui s'est passé pendant la guerre, et il faut se souvenir de tout ça, et il faut amener la nouvelle génération aussi pour qu'ils s'en souviennent et qu'on fasse en sorte que ça ne se reproduise plus.
Apparemment, vous n'êtes pas de la communauté rwandaise. Et vous êtes ici ce soir devant cette stèle pour cette commémoration, pour rappeler ce génocide des Tutsis. Vous, le sens profond de votre présence ici?
D'abord parce que je suis une amie de Jeannette. Puis je pense que voilà, en 94, je n'avais pas réalisé ce qui se passait vraiment. Parce que ici en France, les informations ne passaient pas. Et avec Jeannette, j'ai beaucoup appris sur tout ce qui se passait là-bas. Voilà. Et comme elle est une belle personne, je la soutiens et je soutiens toutes ces qui ont été...
Cette communauté rwandaise ici à Toulouse, vous la connaissez un peu?
Non, très peu, en fait. Je la connais à travers Jeannette. Je rencontre des personnes quand je suis avec elle. C'est tout. En fait, elle m'apprend le piano et on est devenus amis. Comme ça. Et on partage beaucoup de choses, donc...
Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque, loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des Grands Lacs. Remémorer ma vie naguère avant la guerre, trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale, ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale.
Créée en 2011 autour du devoir de mémoire du génocide Tutsi, l'association Diaspora Rwandaise de Toulouse tente de rassembler largement autour du devoir de mémoire. Sa présidente, Jeannette Laroche, nous accueille quelques jours plus tard chez elle.
Nous ne sommes pas très nombreux, je ne connais pas tous les Rwandais de Toulouse. Je pense que nous sommes peut-être une vingtaine de familles. Ensuite, il y a beaucoup d'étudiants qui sont de passage, donc on doit être une centaine. Et la diaspora rwandaise de Toulouse est en train de reprendre vie. L'association, je vous parle de l'association Diaspora Rwandaise de Toulouse. Donc elle compte une cinquantaine de membres, avec un bureau, bien sûr, une organisation habituelle de toute association, loi 1901. Voilà, j'espère que nous pourrons organiser pas mal d'événements, que ce soit au niveau de, bien sûr, transmettre notre culture. La mémoire, ça a une grande place dans nos activités, mais aussi tout ce qui est notre culture et la joie de vivre des Rwandais, parce que c'est un peuple joyeux.
Un besoin, vraiment un besoin de vous retrouver, de faire vivre cette
toujours,
mémoire, et de, et de la faire vivre ici à Toulouse, dans la région où vous vivez tous aujourd'hui.
Bien sûr, c'est important de se réunir, de partager. On est tous très très occupés par nos activités, notre famille, mais à certains moments de notre vie, on a besoin d'être ensemble et de revivre un peu avec notre culture et nos racines. Je pense que ce n'est pas spécifique aux Rwandais d'ailleurs.
On parle de la communauté rwandaise. Je ne peux pas ne pas poser la question, communauté Tutsi, communauté Hutu, est-ce que vous vous retrouvez, est-ce qu'il y a ces deux entités ici à Toulouse et quels peuvent être vos liens aujourd'hui? Nous sommes en 2017.
Oui, ça c'est une question vraiment personnelle. Alors je n'aurais pas dit communauté Tutsi ou communauté Hutu. Ça n'a pas lieu d'être. Nous sommes des Rwandais. Bien sûr, nous commémorons le génocide des Tutsis parce que c'est les Tutsis qui ont été discriminés et tués. C'est important de ne pas oublier qu'il s'agit du génocide des Tutsis, mais ensuite dans notre... des Tutsis, hein, ça, surtout ne jamais oublier, il ne s'agit pas d'un génocide quelconque, ce sont les Tutsis qui ont été pointés du doigt, comme ce sont les Juifs et personne d'autre. Mais dans notre communauté, ensuite, moi, lorsque j'ai un Rwandais qui frappe à ma porte, je ne lui demande pas s'il est Tutsi ou Hutu, il est Rwandais. Et la question ne se pose pas.
Et vendredi, il y avait de nombreux jeunes, des adolescents. Voilà, c'est la vie d'aujourd'hui, c'est la vie de demain.
Si la question que vous me posez, est-ce qu'un tel était Hutu ou un tel était Tutsi, bien sûr, je pourrais vous le dire, mais pour moi, ce n'est pas important et je ne le ferai pas. Mais ils étaient tous là. Voilà.
Le 6 avril 1994, le président dictateur du Rwanda, Juvénal Habyarimana, est tué dans un attentat contre son avion personnel. C'est là l'élément déclencheur du génocide. Ces fidèles de la majorité Hutu entreprennent aussitôt le massacre de la minorité Tutsi et des Hutus modérés. Mais l'engrenage des événements, des tensions, des peurs, des haines qui ont conduit jusqu'à ce génocide sont à aller chercher bien en amont. Arrivé en France en 1963 pour cause d'insécurité et de violence au Rwanda, Édouard Gassaroué, le père de Jeannette Laroche, nous rappelle quelques éléments essentiels. Pour comprendre les mécanismes de ce génocide, il faut remonter à l'époque de la colonisation.
J'ai quitté ce pays en 63. C'est juste l'année qui suit le début de la République. Et la République a commencé dans le sang. Mais il y avait encore quelques députés de l'opposition qui ont été emprisonnés et qui ont disparu très, très peu de temps après. Ça veut dire que notre République a continué sa route avec un parti monotone, avec une voix... tous votant à l'unanimité, c'est pas du 98%, c'est du 100% tout le temps. Et quiconque pouvait s'opposer ou prétendre dire autre chose que ce que disait le parti, c'était un saboteur. Et justement, n'étant pas Hutu, ayant grandi avec les Hutus qui nous persécutaient, je me suis senti menacé, je suis parti.
Dès les années 60,
oui.
Donc c'était donc le génocide perpétré en 94, mais dont les racines remontent même avant les années 60, c'était au moment de l'indépendance peut-être le...
C'est une longue histoire.
J'ai entendu parler de la Toussaint rwandaise.
Oui, mais le début de cette affaire, c'est d'abord une espèce de classification de ce qu'on a appelé les races. C'est-à-dire que les anthropologues occidentaux, en arrivant en Afrique, commençaient à mesurer au pied à coulisses, la longueur du nez, la hauteur de la tête, le poignet, voilà, la taille, et en disant, mais ce sont des races différentes. Donc les Tutsis, on leur donne en plus une origine. Quelques-uns ont dit, puisque c'est un royaume organisé, ces gens-là ne sont pas des nègres. Qu'est-ce que cela suppose? Que sont les nègres, les autres, dans ces conditions? Pour nous, ce sont des Africains qui vivaient dans le même royaume depuis le Xe siècle et qui ne s'étaient jamais perçus comme ça. Donc, cette classification est en soi un début de l'engrenage qui va isoler les gens les uns des autres, ajouter des notions qui proviennent de l'organisation sociale. parce que dans toute société, il y a une espèce d'hiérarchie qui s'établit, soit par la fortune, l'économie, tout le monde n'est pas patron. Voilà, il y a des patrons, des ouvriers, des apprentis, voilà.
Avant la colonisation, Tutsi et Hutu vivaient ensemble.
Ben oui, absolument, absolument. Même, je peux dire que c'est vraiment une symbiose, oui, complète. Parce qu'il n'y a pas de territoire
avec
Tutsi.
Avec des mariages, avec des...
Ah oui, oui, il n'y a pas de territoire Hutu, il n'y a pas de territoire Tutsi, oui. Et parfois... Enfin, moi, je suis arrivé à Paris en 64. Chaque fois que j'ai vu des étudiants rwandais, boulevard Jourdan, la cité universitaire, je les ai toujours contactés. Quelquefois, ils sont venus manger chez moi. Cette histoire de Tutsi, ça appartient à la caste politicienne qui instrumentalise cet aspect des choses pour accaparer un pouvoir ad vitam aeternam et puis exclure les autres aussi d'un territoire qui est le leur. Oui, voilà. Parce que, par exemple, tout ce que je vous ai dit au sujet de ce qu'on appelle la taxinomie, la classification, oui, oui, de ce qu'ils ont appelé des races, c'est à partir, par exemple, de la taille. Bon, si vous regardez sur le terrain, en ce qui concerne la taille, vous trouvez, par exemple, un premier président qui fait 1m60 et qui se dit authentiquement Hutu, du peuple. Mais le suivant qui le bouscule, il fait 1m80 et pèse 100 kilos. Et c'est la même race. Et vous avez des Tutsis qui font 1m60, 1m70. Moi, je fais 1m76. Donc, tout ça, c'est... Je ne sais pas. Ce sont des hypothèses de travail scientifique d'un certain temps, d'un un moment donné, qui se sont figées, mais qui ont soutenu aussi ce courant raciste qui a été inoculé par la colonisation. Le fait d'aller mesurer le nez des gens... Et puis de les classer aussi par la richesse, en disant vous avez 10 vaches, vous serez Tutsi. Si vous en avez moins, vous êtes au Hutu. Et il se fait que certains Hutus acquièrent des vaches. Et ils deviennent Tutsi. Et se classent donc dans la classe plus proche du roi. Il y a beaucoup de Tutsi pauvres, je vous assure. Et qui n'ont pas 10 vaches, qui en ont même peut-être même pas 5. Et souvent, rien. Ils ont leur champ et ils le cultivent. Voilà. Donc... Il me semble que tout ça était absurde, mais que ça a généré un climat, une société complètement cassée, fissurée, avec des trucs qu'on n'expliquait plus que par cette science qui n'a pas lieu d'être appelée une science.
Dans ce pays des mille collines où tous les habitants, Tutsi, Hutu, Twas, sont tous issus de la même ethnie, Banyarwanda, ce processus de classification d'identité raciale allait donc dresser peu à peu les communautés les unes contre les autres. Ce qui ne fut longtemps qu'affrontement social entre éleveurs de bétail Tutsi, 14% environ de la population, et agriculteurs Hutu, représentant eux 85% de la population, le 1% restant étant composé de Twas, les domestiques ou bien ouvriers, deviendraient au fil du temps affrontement racial. Une partie de la population devait disparaître. Jeanne Owen Babazi, ce 7 avril 2017 à Toulouse, devant la stèle de commémoration.
Au Rwanda, des extrémistes Hutu, intellectuels et hommes politiques ont construit une idéologie raciste, étape par étape, insidieusement. Comme un ver dans un fruit jusqu'à ce que tout le fruit pourrisse. Ils ont dans un premier temps désigné un bouc émissaire, le Tutsi. Ils l'ont stigmatisé. Ils l'ont enlevé ses droits élémentaires, droit à l'éducation, droit au travail, ce qui se traduisait par le refus d'accès aux écoles publiques et d'accès au travail dans les administrations de l'État. Cela était justifié par un système mis en place, les quotas ethniques. En d'autres termes, le peuple majoritaire, sous-entendu les Hutus, devait être prioritaire et donc avoir plus de place. Vous avez bien compris ici que le critère retenu était non la compétence mais l'ethnie. Ensuite, ils ont cessé de considérer le Tutsi comme un Rwandais pour le désigner comme un étranger. Ainsi, on entendra dans les rues des petites phrases comme « Vous allez bientôt retourner chez vous ». Un mythe est créé. Il va faire des Tutsis un peuple « amite », entre guillemets. Tantôt venant d'Éthiopie, tantôt d'Égypte. Or, même langue, même religion. Dans les discours des extrémistes politiques, ils distillent ce clivage au sein de la population. Du « eux » étranger et du « nous » le vrai peuple. Cela a été accompagné de temps à autre par des assassinats des Tutsis de telle ou telle région et d'opposants politiques. Ce fut dénoncé par quelques personnes des associations des droits de l'homme, sans succès. Et enfin, ils ont fini par déshumaniser les Tutsis, étape avant le génocide. Ils nous appelaient les cafards, les cancrelats, les serpents. Voilà comment le génocide a été préparé, puis exécuté à partir du 7 avril 1994 pendant 100 jours. Près d'un million de personnes furent exterminées méthodiquement, femmes et enfants et vieillards. Ils étaient juste nés Tutsis.
Petit bout d'Afrique, perché en altitude, je doute de mes amours, tu resteras ma certitude, réputation, recouverte d'un linceul. Petit pays, pendant 3 mois, tout le monde t'a laissé seul. J'avoue, j'ai plaidé coupable de voyir quand tous les projecteurs étaient tournés vers le Zaïre. Il fallait reconstruire mon petit pays sur des ossements, des fosses communes et puis nos cauchemars incessants. Petit pays, te faire sourire sera ma rédemption, je t'offrirai ma vie, à commencer par cette chanson, l'écriture m'a soigné.
Vous êtes revenu depuis ou est-ce que vous êtes revenu au Rwanda? Est-ce que vous êtes rentré une fois chez vous? Est-ce que c'est toujours chez vous là-bas?
Le Rwanda?
Oui.
Plus qu'avant. Je compte y aller bientôt. Mais j'avais des problèmes ici. J'avais aussi ma famille, ma femme qui était handicapée, qui souffrait. Il ne fallait pas la laisser tomber non plus. Les enfants sont partis au Rwanda. Moi, je suis allé au Burundi pour voir mon père. Voilà, c'est... Chacun selon ses commodités et ses facilités de paiement.
Pour vous, Jeannette, vous êtes retournée, est-ce que c'est là-bas, c'est chez vous aussi?
Alors, c'est beaucoup plus complexe parce que moi, je ne suis pas née au Rwanda. Je n'ai pas connu le Rwanda d'avant, 94. Et j'allais au Burundi, puisque notre famille était au Burundi. Pour des questions, comme le dit mon père, uniquement financières, j'y suis toujours pas allée, mais c'est le projet. J'ai ma famille là-bas, avec toutes les technologies nouvelles, on est toujours en communication, et voilà, je prépare notre retour. Mon fils, qui lui est né donc en février 94, ici en France, ne connaît pas le Rwanda, mais d'ici un mois va... On va le découvrir avant sa mère, pour des projets, un projet de travail, et c'était important pour lui, oui.
Enfin, c'est votre histoire, c'est l'histoire de votre famille, l'histoire de votre peuple, je ne sais pas si on peut dire peuple.
C'est le lieu de nos origines, oui, donc, oui. Mais si on me demande si je suis rwandaise ou... J'en sais rien, je suis moi, je suis bien là où je vis, voilà, c'est le lieu de mes ancêtres. Je ne suis pas née en Hongrie, je ne suis pas née... voilà, mes racines sont au Rwanda.
Et c'est important de le transmettre à vos enfants aussi.
Alors, c'est vraiment quelque chose de particulier, parce que lorsqu'on dit le transmettre, il y a comme une notion de travail, alors que c'est quelque chose de très naturel. Petite, ma fille disait à l'école très fièrement « je suis rwandaise ». Bien sûr, c'est une petite métisse, mais elle se sentait rwandaise. Comme une fierté, et je trouve ça plutôt agréable. Ce n'est pas une tare d'être étranger, hein. c'est une richesse.
Oui, c'est étranger. Étranger à quoi, en fait? Parce que, oui, c'est une terre qu'on partage. On y a peut-être un peu moins droit quand on est dans l'Hexagone, à moins de les acquérir par les mécanismes sociaux normaux. Mais étranger, ce n'est pas en soi péjoratif. On est... Mais quelque part, et puis l'Hexagone, c'est quand même pas la majeure partie du monde. Donc cette terre qu'on partage, dans laquelle on contraverse pendant une existence, voilà comment il faut l'avoir, c'est tout. On veut empêter sur les droits de personne, mais simplement vivre.
On parlait tout à l'heure du négationnisme, et Jeannette, vous disiez dans l'allocution que vous avez faite devant la stèle un vendredi, combien l'Église avait pu être partie prenante aussi dans ce génocide. Le pape François, néanmoins, aujourd'hui a fait un premier pas.
Un grand pas. Et je pense que tout Rwandais a su apprécier ce grand pas, parce que c'est tout homme politique, et le pape est un homme politique, qui reconnaît, qui demande pardon, et vraiment, c'est vraiment... bon pour la souffrance de ces gens. Oui, c'est pas panser une plaie, c'est vraiment guérir.
C'est ouvrir un chemin peut-être.
Exactement. Redonner une confiance.
Au Rwanda, le pays se reconstruit. À Toulouse, la diaspora rwandaise est tournée vers l'avenir. Il faudra du temps, beaucoup de temps, avant que le mot de pardon ne soit prononcé. Néanmoins, ici et là, sous-jacent, il m'a semblé entendre quelque chose qui s'en rapprochait. Édouard Gassaroué, avec lequel nous refermons ce reportage.
Le Rwanda, ce n'est pas vraiment le Tutsi, ni le Hutu. Mmh. Le Tutsi a certes souffert de son massacre innommable, mais le Hutu n'a rien gagné, il a perdu beaucoup, je dis. De tout ce qu'il avait réalisé pendant 30 ans, de voir tous ces miséreux partir je ne sais où, mourir sur la route, manquer d'eau, boire des eaux polluées, être atteint par le choléra et des misères, c'est vrai, très difficile à supporter. On pense que personne n'en a envie, qu'il soit autour tout de suite.